Et voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. L'Algérie s'est réveillée sans Abdelaziz Bouteflika au pouvoir ce matin. Le président a démissionné, provoquant des scènes de liesse dans le pays, mais une vigilance aussi. Nous reviendrons sur les 20 ans de règne d'Abdelaziz Bouteflika et nous analyserons le processus de transition politique à venir.
Et puis nous irons aussi en Tunisie, où le président actuel est accusé de torture, de violation des droits de l'homme sous l'ère Bourguiba.
À Brunei, la peine de mort par lapidation ou coup de fouet entre en vigueur aujourd'hui pour les viols, l'adultère, l'homosexualité, une pratique qui rigide de l'islam pour mieux contrôler la population, vous l'entendrez.
Et puis dans ce journal, nous nous intéresserons aussi au baccalauréat et à sa réforme. Le SNES, principal syndicat du secondaire, pourrait appeler à la grève le jour des épreuves.
Les juges doivent-ils choisir qui a le droit de débattre à la télévision? Voici la question que posera Frédéric Seyss dans son billet politique. Nous le retrouvons après ce journal. C'est l'image qu'il fallait pour prouver que l'annonce était bien vraie. Abdelaziz Bouteflika, assis sur un fauteuil roulant, vêtu d'une tunique beige, visiblement très affaibli. Les Algériens l'ont vu hier soir à la télévision. Il était environ 22h30. Entouré du président du Conseil de la Nation et de celui du Conseil constitutionnel, Abdelaziz Bouteflika a remis sa lettre de démission. Il y explique vouloir l'apaisement des cœurs et des esprits pour ses compatriotes. Dans la foulée, des centaines de personnes sont descendues dans la rue un peu partout dans le pays, et notamment à Alger.
C'est une victoire, on est fiers, franchement, c'est l'indépendance.
On ne peut pas crier victoire, mais c'est le début de la victoire. Et on va les chasser tous. C'est un nouveau pouvoir démocratique qui va s'installer ici en Algérie, vraiment qui va représenter le peuple algérien.
C'est juste le départ du président, mais il y a tout un système. Maintenant, on est dans un mouvement qui est mondial, qu'on appelle le dégagisme.
On n'a gagné que 15-50%, mais depuis le 22 février, on se bat jour après jour, étudiants, médecins, pour une liberté, pour une démocratie. Ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui.
Il faut qu'ils partent tous, voilà le slogan des jeunes notamment qui manifestent et qu'admirent l'écrivain algérien Yasmina Kadra. Il voit en cette jeunesse algérienne une héroïne.
Je suis admiratif, sincèrement, ça m'a étonné. De la part d'un peuple qui est resté convalescent trop longtemps et qui s'éveille à ses responsabilités avec beaucoup de maturité, beaucoup de sérénité et beaucoup de détermination. La jeunesse, elle a fait montre d'une vaillance et d'une sérénité, d'une lucidité extraordinaire. Moi-même, je suis étonné, vraiment, je suis complètement admiratif devant cette jeunesse. Et elle n'a pas peur, elle n'a jamais eu peur et elle ira jusqu'au bout.
Des manifestants qui iront jusqu'au bout, ça, nous le verrons. Ils appellent en tout cas déjà à continuer les manifestations les vendredis pour évincer tout le système. Bonjour Nathanaël Charbonnier.
Bonjour.
Nathanaël, Abdelaziz Bouteflika, lui, est déjà écarté et il aura passé sa vie dans les arcanes du pouvoir algérien.
Ah oui, c'est un homme de pouvoir qui aurait été fait et défait par les militaires. Vous savez, la première fois que Bouteflika entre dans un gouvernement algérien, c'est en 62. C'est-à-dire il y a 57 ans, à l'époque, l'indépendance vient de sonner. Et il est nommé ministre des Sports et du Tourisme. En 65, il soutient le coup d'État qui va écarter du pouvoir le président Ben Bella et devient ministre des Affaires étrangères du nouvel homme fort du pays, Wari Boumediene, poste qu'il occupera jusqu'en 78. Mais voilà, la roue tourne et ce sont les militaires qui l'écartent du pouvoir 2 ans plus tard. À l'époque, on l'accuse d'extorsion de fonds. Il devra s'exiler pendant plusieurs années à l'étranger, notamment à Dubaï et à Genève. Bouteflika fini ? Non, car l'Algérie vient de vivre 10 ans de guerre civile. Et les militaires, toujours eux, vont le rechercher en 99 pour rétablir la paix, réconcilier le pays, ce qu'il fera avec notamment la loi d'amnistie. En 2011, c'est avec les militaires qu'il tiendra bon face au printemps arabe qui souffle dans la région. Il faut dire qu'à l'époque, il est puissant et riche, les cours du pétrole sont au plus haut en Algérie. Les militaires qui le soutiennent encore en 2014 pour l'élection présidentielle malgré la maladie et l'AVC, l'accident vasculaire cérébral dont il a été victime un an plus tôt et qui le handicape grandement. Ce sont les militaires enfin qui sifflent la fin de son règne et qui fermement viennent de l'obliger à démissionner ce mardi 2 avril.
Ah, aujourd'hui, Abdelaziz Bouteflika est donc hors course. Que va-t-il maintenant se passer, Nathanaël ?
Alors, l'option possible, c'est normalement de suivre la constitution algérienne. L'intérim devrait être géré par le président du Conseil de la Nation, l'équivalent du Sénat en France, et c'est le gouvernement nommé dimanche dernier qui aura pour mission d'organiser les élections qui doivent se tenir dans les 3 mois. Mais voilà, le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, et le Premier ministre Nouridine Bédoui sont des proches du clan Bouteflika. Or, la rue algérienne, vous l'avez très bien dit, lors de ces 6 semaines de manifestation, a demandé non seulement le départ de Bouteflika, c'est maintenant fait, mais aussi le départ du système. Dans ce cas, certains expliquent qu'il faut mieux s'appuyer non pas sur l'article 102 de la Constitution, mais sur l'article 7 qui dit que le peuple est la source de tout pouvoir. Dans ce cas, il est avancé l'idée d'un nouveau gouvernement d'union nationale pour l'organisation des élections ou la rédaction d'une nouvelle constituante. Autant d'options possibles mais qui n'entraîneraient beaucoup d'incertitudes, en sachant que normalement c'est une nouvelle fois l'armée qui devrait trancher, parce qu'en Algérie c'est toujours comme cela que les choses se terminent.
Merci beaucoup Nathanaël Charbonnier de la rédaction internationale de France Culture pour ces précisions ce matin. J'ajoute qu'en France, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian se dit confiant dans la poursuite d'une transition démocratique en Algérie. Pour Washington, il revient aux Algériens de décider comment gérer la transition post-Bouteflika. En Tunisie, c'est un président fragilisé qui tente en ce moment de se défendre. Il est accusé de torture. C'est en fait l'IVD, l'instance chargée de lancer le processus de justice transitionnelle, qui a enquêté en Tunisie pendant près de 5 ans. Enquête sur les violations des droits de l'homme commises entre 1955, dernière année de l'occupation française, et 2013. Il en ressort donc que le président tunisien est impliqué, Maureen Mercier.
Il faut éplucher un rapport de plusieurs milliers de pages pour voir tout à coup apparaître le nom du président actuel et comprendre pourquoi il s'est appliqué durant les 5 ans de travail de l'IVD à tout faire pour la paralyser. Au moment des faits qui lui sont reprochés, Béji Kaïdessepsi est directeur de la Sûreté nationale, puis ministre de l'Intérieur sous Bourguiba. Chihem Ben Sedrine, la présidente de l'instance.
Nous avons reçu des plaintes de victimes et ces victimes ont témoigné qu'il a assisté à leur torture.
Des victimes qui avaient tenté de renverser le régime de Bourguiba, enfermé ensuite durant des années.
Ils étaient enchaînés dans un bagne avec une chaîne de 50 cm. Ils étaient battus tout le temps. Et c'est les tortures les plus scandaleuses qui aient pu avoir lieu dans l'histoire de la Tunisie, c'est cette période-là.
Le président risque-t-il d'être jugé puis condamné? Autour maintenant des cours de justice spécialisées de trancher. Si Béji Kaïdessepsi reconnaît les faits et s'excuse publiquement, il pourrait s'en tirer. C'est le principe même de la justice transitionnelle.
Si la personne coopère et reconnaît les faits, demander pardon, etc., ils peuvent, après l'avoir condamné, ne prononcer aucune sanction. La justice transitionnelle, elle est beaucoup plus ouverte à la réconciliation, mais ça dépend aussi de son degré de coopération.
Jusqu'ici, le président n'a jamais voulu s'étendre sur son passé. S'il souhaite se présenter, et c'est très probable, à sa propre succession lors de la présidentielle en novembre, il va peut-être bien devoir se raviser.
Maureen Mercier depuis Tunis pour France Culture. À Brunei, petit état d'Asie du Sud-Est, il est aussi question de torture et aujourd'hui encore, l'adultère, le viol, l'homosexualité seront punis de la peine de mort par lapidation ou coup de fouet à partir d'aujourd'hui. La vague d'indignation est mondiale. Le commissariat aux droits de l'homme à l'ONU évoque des actes cruels et inhumains. Ils ne sont pourtant et malheureusement pas nouveaux, Claude Guibal.
Théoriquement, ces nouvelles lois entrent en vigueur aujourd'hui, mais le processus d'intégration de la charia, la loi islamique, dans le système judiciaire du Brunei a commencé il y a plus de 5 ans, avec la mise en place de châtiments corporels, amputations, flagellations pour des délits religieux, alimentaires ou sexuels, de lourdes peines de prison pour les musulmans qui ne vont pas à la mosquée, l'interdiction aux chrétiens d'utiliser des décorations de Noël. Difficile de connaître avec précision les raisons de cette crispation religieuse qui s'est emparée de ce minuscule État, 430 000 habitants, les 2/3 musulmans, 10% de chrétiens. À sa tête, le sultan Hassan al-Bolkial, au pouvoir depuis plus de 50 ans, il règne en maître incontesté sur ce pays richissime mais tributaire des fluctuations du cours du pétrole. Et cela pourrait jouer sur une forme d'insécurité. Alors que les réserves baissent et les cours aussi, le sultan serait inquiet d'éventuels soubresauts de sa population si cela venait à avoir un effet sur les subventions dont il inonde son peuple en échange d'une totale soumission. Une pratique rigide de l'islam pourrait alors lui permettre de maintenir une forme de contrôle sur la population, lui permettre aussi de s'afficher comme un état modèle en matière de respect de la loi islamique et de gagner ainsi la grâce de Dieu pour s'attacher la pérennité de la rente pétrolière qui lui permet de se maintenir au pouvoir.
Et le sultan de Brunei s'est d'ailleurs exprimé ce matin. Il dit vouloir renforcer l'éducation islamique dans son pays, condamnant ainsi et notamment les personnes homosexuelles. Aux États-Unis, les habitants habitants de Chicago ont, eux, élu une femme à la tête de la ville, une femme afro-américaine et ouvertement lesbienne. Elle est mariée et mère d'une enfant. Cette démocrate s'appelle Lori Lightfoot, ancienne procureure fédérale. Elle a fait campagne en promettant de réduire les inégalités sociales et raciales à Chicago, troisième ville des États-Unis avec près de 3 millions d'habitants. La première ministre britannique souhaite de nouveau repousser le Brexit du 12 avril au 22 mai. Theresa May va le demander à Bruxelles et elle doit rencontrer d'ici là l'opposition travailliste pour tenter de sortir de l'impasse politique. Alors que, rappelons-le, les députés britanniques ont rejeté par 3 fois déjà son texte négocié avec Bruxelles. Et puis, en bref encore, nous avons appris hier la mort d'un médecin militaire français au Mali. Il a été tué pendant une opération contre des groupes terroristes en roulant sur un engin explosif. Mort dans l'accomplissement de sa mission, voilà ce que dit Emmanuel Macron.
8h10 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Jean-Paul Delevoye pourrait bien démissionner du Haut Commissariat aux retraites dont il a la charge.
Le Canard enchaîné l'indique dans son édition ce matin et un député de la majorité nous le confirme. Jean-Paul Delevoye ne supporte pas les appels de plusieurs ministres ainsi que de leurs conseillers en faveur d'un allongement de l'âge de départ en retraite alors qu'il négocie toujours avec les partenaires sociaux. Il met donc son poste dans la balance pour obtenir une clarification de la part de l'exécutif. Lui a voulu mettre fin aux rumeurs. Le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, a confirmé cette nuit la suppression de la taxe d'habitation pour l'ensemble des contribuables, hors résidence secondaire. Cette suppression se fera d'ici 2022. Gérald Darmanin était dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale à l'occasion des discussions autour du grand débat. C'est un différend qui dure depuis des années entre le gouvernement et la mairie de Paris. Le différend autour de l'encadrement des loyers, mis en place sous François Hollande, puis annulé par la justice en 2017. À Paris, la municipalité souhaite réimposer cet encadrement. Le gouvernement pourrait d'ailleurs publier un décret en ce sens dans les jours qui viennent. C'est ce qu'expliquait ce matin l'adjoint à la mairie de Paris en charge du logement, Yann Brossat, au micro de Marc Fauvel.
Je crois que le projet de décret est sur le bureau de la ministre Jacqueline Gourault. Je souhaite qu'elle le signe rapidement, de telle sorte que les loyers puissent baisser et qu'on lutte contre ces loyers abusifs qui pénalisent les classes moyennes. J'ai vu qu'il y a toute une série de villes, notamment dans la petite couronne parisienne, mais pas seulement, dans d'autres grandes métropoles, notamment Grenoble, qui sont favorables à l'encadrement des loyers. Parce qu'on le voit bien, ce sont toutes nos grosses métropoles qui ont vu les loyers flamber, avec des classes moyennes qui voient leur pouvoir d'achat réduit d'autant.
Si la ministre signe cette semaine ce décret, l'encadrement des loyers, c'est pour quand à Paris ?
Il y aura ensuite une autre étape qui est un arrêté qui doit être signé par le préfet et qui doit fixer les loyers plafonds que les propriétaires ne pourront pas dépasser. Cela veut dire que nous pouvons être prêts pour le mois de juin et que les loyers abusifs puissent être révisés à la baisse.
Yann Brossat, adjoint à la mairie de Paris en charge du logement, tête de liste, notons-le aussi, tête de liste communiste aux élections européennes. Dans l'éducation nationale, le SNES, syndicat majoritaire dans le second degré, lance à partir d'aujourd'hui une consultation. Faut-il ou non faire grève le jour des épreuves de baccalauréat de philosophie et de français en juin prochain ? Le syndicat veut se mobiliser contre la réforme du baccalauréat. Cette action, quelle qu'elle soit, serait sans précédent, Hakim Kasmi.
Annulation de bac blanc dans certains lycées, refus de remplir les bulletins et les fiches à venir pour Parcoursup, ou encore 20 sur 20 à tous les élèves de terminale. La fronde, qui dure depuis plusieurs mois, se décline sous différentes formes. Pour Frédéric Rollet, secrétaire général du SNES, principal syndicat du secondaire, d'ordinaire hostile à ce genre d'action, il n'y a plus le choix tant que le ministre de l'Éducation refusera le dialogue et de faire des concessions sur la réforme du lycée.
On voit bien que les collègues ne savent pas comment renseigner leurs élèves. Ils se disent absolument tout et n'importe quoi. Les enseignements de spécialité, les options ne sont pas ouverts partout, et même là où ils sont ouverts, on dit de toute façon, on n'ouvrira pas des classes, des groupes partout. Il faudra financer les options en plus, donc en supprimant des dédoublements. Donc ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de motifs.
Une méthode que dénonce et qui inquiète fortement le porte-parole de la PEP, Samuel Sioui.
Dans le cas où une épreuve serait annulée et repoussée à une date ultérieure, quid des élèves qui ont prévu de travailler, parce qu'il y en a beaucoup qui ont besoin de travailler pour les vacances, quid de ceux qui ont prévu de partir à l'étranger pendant un certain temps, parce que c'est la dernière année avant l'enseignement supérieur. Le baccalauréat est nécessaire pour continuer. Il faut absolument que le dialogue entre les syndicats et le ministère se renouent pour qu'on n'en arrive pas à de telles extrémités.
Les syndicats du secondaire seront reçus ce matin au ministère de l'Éducation. Quant aux résultats de la consultation du SNES, ils devraient être connus juste après les vacances de Pâques.
Et d'ici là, les enseignants seront mobilisés plus largement contre la réforme du baccalauréat et la nouvelle loi pour une école de la confiance. Un appel à la grève est lancé pour demain, jeudi, de la maternelle au lycée et chez les étudiants également. Et puis les lycéens de terminale ont jusqu'à ce soir pour s'inscrire sur la plateforme d'orientation Parcoursup. Le gouvernement a promis cette année 30 000 places de plus quand les organisations syndicales en demandaient au moins 3 fois plus. Le temps de ce mercredi, il s'annonce plus frais et agité avec des orages venus de l'Atlantique Nord ce matin qui vont traverser le pays toute la journée. La pluie va tomber sur toute la France. Ce matin, comptez 7 degrés à Paris, Lille et Rennes, 8 à Besançon et Bordeaux, 10 degrés à Lyon, entre 11 et 13 degrés près de la Méditerranée.